Regard sur la Terre, l'annuel du développement durable décrypte tous les ans un enjeu particulier du développement durable. Cette année, le dossier revient sur les rapports entre l'agriculture, l'alimentation, le développement et l'environnement. L'année 2011 aura marqué le retour de l'agriculture dans les priorités de la communauté internationale, conséquence de la flambée des prix des denrées agricoles entre 2008 et 2011. Crise financière, alimentaire et agricole, des opportunités pour changer. Pierre Jacquet, ingénieur des ponts des eaux et forêts et membre du Cercle des économistes et chef économiste de l'Agence française du développement, au micro de Pascal Marcacci.
Pierre Jacquet, pourquoi le thème de l'agriculture pour ce rapport annuel ?
Bien, d'abord parce que l'agriculture est une thématique très fondamentale du développement durable. Donc, comme c'est un rapport annuel sur le développement durable, nous avons toujours eu l'idée de consacrer un numéro à l'agriculture. Et puis ensuite, parce que le contexte international, peut-être malheureusement, avec les crises alimentaires qui se sont produites, avec aujourd'hui, en ce moment même, un risque d'insécurité alimentaire très fondamental dans la région du Sahel, tout ça nous amène à parler de l'agriculture et à surtout dire qu'il est dommage d'attendre les crises pour en parler. Et donc, nous avons souhaité, dans ce livre, donner des analyses de fond qui, nous l'espérons, permettent d'ancrer une réflexion à moyen et long terme qui soit autre chose qu'une réaction aux crises.
Vous parlez de l'Afrique sahélienne, on pense par exemple au Burkina Faso, 2 années d'inondations, ensuite une année de famine par exemple.
Oui,
on peut penser que 2008 c'est vraiment une année de cassure dans le monde pour la sécurité alimentaire.
Oui et non, c'est une année de cassure politique dans la mesure où tout d'un coup on se rend compte qu'il y a un vrai sujet qu'il faut quand même le traiter, mais non dans la mesure où il y avait des problèmes de sécurité alimentaire bien avant la crise. Quand on regarde d'ailleurs l'évolution du nombre de personnes mal nourri dans le monde, qui est un indicateur qui est suivi notamment à la FAO, eh bien on voit qu'il y avait des problèmes majeurs bien avant la crise. Le pourcentage des personnes sous-alimentées dans le monde, dans les pays en développement, a cessé de décroître à partir du milieu des années 90, et donc il y a un vrai sujet qu'on aurait dû voir et traiter avant. Et il a fallu cette crise, c'est une sorte de wake-up call, on dirait en anglais, si vous voulez, qui a fait que tout d'un coup la communauté internationale s'est saisie du sujet. Donc c'est une bonne chose qu'elle se soit saisie du sujet, c'est un peu dommage qu'il ait quand même fallu la crise pour y arriver, et ce que j'espère, c'est que cette dynamique politique va aider à mettre en place des réponses qui sont autre chose que des réponses à la crise, mais qui sont des réponses de moyen et long terme sur le développement agricole, sur l'élaboration de politiques publiques dans le domaine agricole qui soient mieux établies.
Vous avez insisté sur le fait que les leviers publics sont importants et en même temps que les leviers doivent être hors de l'agriculture. Quels peuvent être les leviers ?
Moi, je crois que beaucoup tient à la cohérence des politiques publiques en général. On a parlé de politique publique agricole, mais c'est vrai que pour que ces politiques publiques aient un sens, il faut qu'il y ait aussi la formation des gens, les infrastructures, le développement du secteur financier pour financer notamment l'agriculture et les autres domaines. Donc c'est le besoin de politiques publiques cohérentes dans les pays en développement en général. Et en effet, une bonne partie des sujets ne sont pas des sujets purement agricoles, mais il y en a aussi évidemment dans le domaine agricole.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en clair, il faut que les pays africains qui souffrent le plus de la famine acceptent d'avoir une véritable politique publique, que ce soit pour l'agriculture, pour l'eau, pour...
Oui, qu'ils la développent. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, nous, dans des agences de développement et pas seulement à l'AFD, que les programmes et les projets que nous finançons ont d'autant plus de chances d'être des succès. Ils sont ancrés dans des politiques publiques locales cohérentes. Il faut que les pays en développement prennent leur destin en main, le formulent dans des politiques publiques cohérentes. Et aujourd'hui, c'est rarement le cas parce que c'est ont rarement la capacité de le faire eux-mêmes. Donc il faut aussi qu'on les aide à faire ça. Et je crois que cet aspect formation de capacité, élaboration de politiques publiques sectorielles dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la sécurité alimentaire, tout ça est très important et doit être pris en main par les pays eux-mêmes.
La spéculation sur les denrées alimentaires, c'est une chose qui devrait être supprimée ?
Écoutez, il y a tout le temps eu des risques dans le domaine de la production agricole et alimentaire, et c'est d'ailleurs le secteur dans lequel on a créé pour la première fois des produits de gestion des risques. La création du Chicago Board of Trade dans les années 1860 était précisément là pour faciliter cela. Et la spéculation, elle est un comportement naturel de tout un ensemble d'acteurs, notamment les agriculteurs eux-mêmes. Dès qu'on fait un pari sur l'avenir, on spécule. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont envie d'accuser la spéculation. Je pense que, évidemment, l'excès de spéculation pose des problèmes. Mais si les gens spéculent dans une direction donnée, c'est en général parce qu'il y a une situation qui les pousse à spéculer. Et je pense que c'est cette situation qu'il faut qu'on règle avant même de parler de la spéculation. Je pense qu'il y a des sujets très fondamentaux à gérer. Et donc, c'est pour moi une priorité plus importante aujourd'hui que celle qui consiste à essayer de comprendre si les spéculateurs ont joué un rôle majeur ou pas dans cette crise. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'ils ont été aussi un miroir d'un ensemble de problèmes. Et il faut gérer ces problèmes avant d'accuser la spéculation.
Laurence Toubiana, fondatrice et directrice de l'Institut du développement durable et des relations internationales.
Laurence Toubiana, après la crise d'une transition, oui, mais pourquoi faire un ?
Je crois qu'il faut, ça manque souvent, on parle de transition mais on ne sait pas vers quoi. Donc il faut parler de où est-ce qu'on veut arriver en gros, hein. Qu'est-ce qui serait raisonnable et souhaitable pour tout le monde. Et on commence à savoir ce que ça veut dire, hein. Un monde où quand même on a de l'énergie qui n'est pas aussi risquée, qui ne produit pas cet effet de gaz à effet de serre. Un monde aussi où on a peut-être moins de consommation matérielle mais à la fois plus de temps et plus de consommation d'autres aspects, notamment symboliques. C'est aussi la santé, hein, c'est une alimentation plus saine. On voit quand même qu'on est dans une phase où tous ces gains de santé qu'on a eus grâce à la médecine, à l'allopathie, à tellement de choses sont aujourd'hui en train, non pas de se renverser, mais d'être aussi contrebattues au fond par les aspects des facteurs d'environnement. Donc au fond, qu'est-ce qu'on voit un monde aussi où notre santé ne soit pas menacée par ces pollutions environnementales qu'on ne contrôle pas. C'est aussi des villes vivables, où on ne fait pas 40 km pour aller travailler, des villes où il y a du lien social, où on connaît ses voisins, où on maîtrise un peu son environnement. Donc on a quand même, c'est pas le futur souhaitable, il n'est pas si difficile à imaginer. Donc la question c'est comment on y va. Et c'est vrai que le chemin pris aujourd'hui par le système économique, il a plutôt été intensifier beaucoup de capital, le moins de travail possible. Et au fond peut-être que c'est une bonne chose aussi de dégager du temps de travail pour faire des choses plus intéressantes que des tâches répétitives. Mais c'est aussi produire de plus en plus de consommation matérielle. Donc une fixation très forte sur le taux de croissance dont on ne peut pas se sortir tout de suite. Il faut aussi imaginer quelque chose qui serait, notamment dans les pays développés, plutôt de la prospérité, mais pas forcément un taux de croissance important. Donc la transition, une fois que, au fond, et c'est ce qui manque peut-être, c'est un débat où, sans que ce soit un débat d'utopie, mais un débat où est-ce qu'on veut aller ensemble. C'est différent évidemment selon les différents pays ou les différentes sociétés. Et je trouve qu'il manque, on parle beaucoup de la transition et pas assez, non pas du point d'arrivée, mais de l'objectif commun. Et s'il y a un objectif commun, mais à ce moment-là, le changement ou le besoin du changement ou sa conduite, bah, c'est très différent puisqu'on partage quelque chose qui est là où on veut aller.
Mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ?
Je pense qu'on a peur. On a peur d'inventer. C'est comme si c'est trop compliqué. C'est trop compliqué d'inventer. On cite une petite phrase de Steve Jobs dans le livre. La meilleure manière de prévoir l'avenir, c'est de l'inventer. Je crois qu'il y a une peur d'inventer. Et comme si c'était, ça n'avait pas droit de citer, de dire de qu'est-ce qu'on a envie.
Regard sur la Terre est le fruit d'une coopération entre l'AFD, l'Agence française du développement, l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, et le TERI, The Energy and Resources Institute, dirigé par Rajendra Kumar Pachauri, par ailleurs président du GIEC, groupement international sur l'évolution du climat, et également prix Nobel de la paix 2007.